Bonsoir, c'est le virus qui guette la planète Zika qui continue sa fulgurante et dangereuse progression portée par des moustiques, hein, les Antilles, les Caraïbes, l'Amérique centrale, le Brésil, quelques cas aux États-Unis, quelques cas en Europe, justement. Oui, la moitié de la région est déjà touchée, est déjà infectée. Et dans certains pays, eh bien, la recommandation, c'est ne faites pas d'enfants. Alors, au-delà du préjudice humain, est-ce que Zika, coronavirus, la grippe aviaire, le chikungunya, justement, ne vont pas porter aussi un préjudice à l'économie mondiale? Question ce soir, est-ce que le monde est prêt à combattre ces épidémies? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, à cette question, hein, le monde est-il prêt à combattre les épidémies? La réponse la semaine dernière à Davos, hein, à Davos, le grand forum mondial de Davos, c'était pas vraiment. Oui, alors médecine, science et puis de l'économie au cœur des décodeurs de l'écho ce soir, bien entendu, avec de très nombreux invités jusqu'à 20h30. Hein. Pour démarrer avec nous, le professeur Jean-François Delfraissy. Il est directeur de l'Institut Microbiologie et Maladies Infectieuses de l'INSERM. Christian Sommade, délégué général du Haut Comité Français pour la Défense Civile. Et avec nous également Frédéric Bizard. Il est économiste spécialisé dans la santé. Il vient de faire paraître, et c'est évidemment, c'est un livre d'actualité, bien sûr, complémentaire santé, le scandale, hein, vous savez, les complémentaires santé qui sont obligatoires maintenant depuis le 1er janvier, tout ça, non sans causer un certain nombre de problèmes, tout n'est pas complètement abouti, bien entendu, dans les entreprises. Allez voir complémentaires santé, le scandale. Alors en attendant, eh bien, alerte, hein, c'est explosif sur le virus Zika qui progresse à vitesse grand V. Où en est-on? On va faire le point avec Jean-Baptiste Huet.
C'est en 1947 en Ouganda que l'on détecte pour la première fois le virus Zika. L'infection se transmet par piqûre de moustique. Des épidémies ont déjà eu lieu en 2007 en Micronésie, en Polynésie française entre 2013 et 2014. Et là, depuis plusieurs mois, les choses s'accélèrent. Au Brésil, les estimations oscillent entre 400 000 et plus d'un million de personnes touchées. Beaucoup plus récemment, la Colombie avec plus de 11 000 cas, la Guyane qui vient de passer hier en phase épidémique et les Antilles, presque 200 cas. Notamment la Martinique, qui est placée au niveau 3 du programme de surveillance d'alerte et de gestion des épidémies. Les États-Unis sont également touchés, 3 cas sont recensés, en particulier à New York. L'Organisation mondiale pour la santé craint une extension du virus à l'ensemble du continent américain. Pour le moment, 21 pays sur 55 sont concernés. Pour se protéger et tenter d'enrayer l'épidémie, les personnes sont invitées à porter des vêtements longs, dormir sous une moustiquaire, utiliser des insecticides et nettoyer dans leur domicile et jardins, les zones où peuvent proliférer les moustiques.
Voilà, explication de Jean-Baptiste Huet. Professeur Delfraissy, c'est quoi Zika exactement? De quoi on parle ce soir?
On parle d'une catégorie de virus qui a une grande famille, qui s'appelle les arbovirus. Le mot Zika, c'est le nom d'une forêt d'Ouganda, d'où est sorti, où a été isolé, tout à fait pour autre chose. D'ailleurs, c'était une campagne contre la fièvre jaune. Et en 47, donc c'est vieux, hein. C'est un peu comme Ebola, c'est des vieux virus, entre guillemets, enfin vieux, 50 ans, qui ressortent et qui prennent tout d'un coup une dimension différente, probablement parce que le monde a changé. Le virus n'a pas tellement changé, hein, mais le monde a changé.
Et le monde et le virus se transportent beaucoup plus facilement.
Alors le virus se transporte plus facilement.
Comment est-ce qu'il est arrivé justement dans toute cette zone Amérique, puisque c'est cette région la plus infectée actuellement?
On n'a pas d'explication claire, on sait qu'il... Bon, le point de départ, c'est probablement l'Afrique, hein, comme souvent d'ailleurs, de l'Afrique centrale, hein, qui a une sorte de niche, un peu de réservoir d'une série de virus. Il est passé après en Asie du Sud-Est, la Polynésie, hein, ça a été avec une épidémie importante qui a eu lieu en Polynésie française, qui est très instructif parce qu'on est en train de l'étudier complètement en ce moment. Et puis après,
ça sera intéressant. D'ailleurs, vous nous direz comment on tire les leçons des précédentes épidémies pour le futur.
On essaie de les tirer.
Ouais.
Et puis après, il passe au Brésil. Alors certains disent que c'était à l'occasion de la Coupe du Monde de football qui a eu beaucoup de variations. Enfin, pour l'anecdote, moi je me souviens très bien. Les scientifiques, on était assez inquiets au moment de la Coupe du Monde, mais pas du tout pour Zika. Je connaissais à peine, hein, je veux dire franchement ce qu'il en est. Mais pour le virus du chikungunya qui était aux Antilles, et on pensait qu'à l'occasion des mouvements de la Coupe du Monde à Rio, le chik allait passer au Brésil. Le chik n'est pas passé, et probablement c'est le Zika qui est arrivé, et puis maintenant il remonte à la fois sur les Antilles, et il est proche des US et des Antilles, c'est aussi proche de nous, hein. Les Antilles, c'est des départements français d'outre-mer,
qui sont déjà
avec
lesquels
on a toute une série de relations.
Qui sont infectés, comme le disait Jean-Baptiste Huet. Juste encore quelques notions médicales, et puis après, donc, on verra justement comment ces épidémies se transmettent dans le monde entier, évidemment, en profitant des transports aériens, profitant du tourisme. Comment est-ce qu'elle se transmet, cette maladie? Maladie qui n'est pas mortelle, a priori, avec le Zika. Hein.
C'est une maladie qui, en fait, est très peu grave. On est dans un modèle totalement différent. J'étais venu ici il y a maintenant presque un peu plus d'un an
pour parler d'Ebola, dont l'épidémie est terminée maintenant depuis deux semaines, officiellement selon l'OMS, 11 000 morts, hein, dans Guinée, Libéria.
Le Zika, c'est un modèle totalement différent. Le Zika, c'est une maladie banale, hein, très, comme la dengue, comme le chic dans un certain nombre de cas. Ça entraîne de la fièvre, une petite éruption cutanée, une conjonctivite avec les yeux rouges, quelques douleurs musculaires. Puis il y a beaucoup de formes qui n'ont aucun symptôme. Et ça, on est en train de s'en apercevoir, qui n'entraîne aucun symptôme.
C'est-à-dire, on est porteur de la maladie, mais on ne le sait pas.
On n'a aucun symptôme, comme d'ailleurs avec pas mal de virus. Et puis, il y a deux formes, pour l'instant en particulier, il y en aura probablement d'autres qui vont être décrits à l'occasion de cette épidémie. Premièrement, une atteinte neurologique très, très bizarre, qui pour nous, les médecins, est très parlante, qui s'appelle une polyradiculonévrite, hein, c'est un jargon, bon, un syndrome de Guillain-Barré, qui entraîne une atteinte d'un certain nombre de nerfs en périphérie qui peut s'accompagner finalement d'un phénomène de paralysie un peu globale qui nécessite des soins en réanimation. Et ce qui a été constaté à la fois en Polynésie et qui commence à être constaté au Brésil et semble-t-il aussi aux Antilles, c'est une augmentation du nombre de cas de Guillain-Barré, donc de cette polyradiculonévrite, en même temps que l'épidémie Zika. Ça, c'est la première complication. Elle est très peu fréquente. C'est moins de 1% des cas, de l'ordre de 0,5%.
Avec une autre complication, c'est
et la seconde, c'est l'atteinte,
les bébés,
l'atteinte
fœtus.
Du bébé avec la microcéphalie durant
donc
la grossesse.
Donc des petites têtes.
Et qui est là le problème majeur, puisque c'est en termes de santé publique, pour le Brésil par exemple, mais pour le reste également pour les Antilles, c'est pendant la grossesse, une relation de cause à effet qui n'est pas encore totalement prouvée. Hein. Il faut être prudent. Elle est hautement probable, mais elle n'est pas totalement prouvée.
On verra d'ailleurs tout à l'heure les conséquences hein, au Brésil, les conséquences dans les Antilles françaises avec d'autres invités, d'autres décodeurs. Christian Soma, délégué général du Haut Comité français pour la défense civile, et c'est Jean-Baptiste Huet qui le rappelait tout à l'heure, l'OMS hein, qui a lancé, c'était hier, un message pessimiste, hein, Zika va continuer de s'étendre et sans doute concerner tous les pays et territoires de la région où le moustique est présent. Pour l'instant, la moitié des pays de la zone Amérique sont touchés. Jusqu'où ça va aller?
Écoutez, je voulais prendre simplement un autre exemple, qui est celui du West Nile virus, qui est un autre type de virus. On l'a vu traverser les États-Unis, arriver sur la côte Est avant le 11 septembre, un an avant, avec vraiment à New York des opérations très lourdes de désinfection. Et puis on l'a vu traverser tous les États-Unis en moins de 10 ans. Et maintenant, il y en a partout. Donc le problème, c'est effectivement ces petites bêtes, les moustiques qui prolifèrent, et donc il faut effectivement beaucoup de vigilance pour ne pas faire proliférer ces bassins, donc toutes les eaux stagnantes, etc. Donc ça pose de vrais problèmes, et puis ce sont des maladies qui terminent, enfin je parle sous le contrôle du professeur, de manière endémique un petit peu dans de nombreux territoires. Quand vous regardez la dengue aujourd'hui, il y en a partout, c'est endémique. Donc c'est très très difficile, ça veut dire que, si vous voulez, pour les voyageurs, on a plus la variole comme il y a 50 ans, mais on a d'autres virus, et comme vous disiez, le monde change et il faut s'adapter, et il faut que les voyageurs aient ça en tête en matière de protection individuelle, et il faut que les entreprises aient ça en tête en matière de responsabilité sociale d'entreprise.
Oui, parce que tout ça va très très vite, hein. Est-ce que vous avez l'impression, Frédéric Bizarre, que les moyens déployés, donc aussi bien par les autorités publiques, aussi bien par les entreprises également, sont là, sont au rendez-vous justement pour combattre ce type d'épidémie dont on parle du Zika, parce que là il infecte une grande partie du continent américain. Donc aujourd'hui, le chikungunya, la grippe aviaire, d'autres virus, d'autres épidémies.
Oui, on arrive assez peu dans les pays développés à contenir ces épidémies. C'est beaucoup plus dramatique dans les pays sous-développés qui, eux, n'ont pas de système sanitaire pour faire face, être le premier bouclier par rapport à ces épidémies. Mais malheureusement, je dirais, c'est un tort, à mon avis, les évaluations économiques et d'ailleurs les conséquences parlais tout à l'heure de tirer des leçons, sont pas assez précisément prises, parce qu'il y a des conséquences économiques qui sont extrêmement sous-estimées. Et comme on est toujours sur des questions d'allocation de ressources, à partir du moment où vous connaissez pas très précisément le coût économique de votre épidémie, il est difficile ensuite d'avoir une bonne stratégie d'allocation de ressources. Alors il y a trois déterminants dans les coûts économiques. Hein. Vous avez les coûts sanitaires proprement dit, de lutte préventive, mais quelquefois de lutte quand il y a un vaccin, ou même de lutte pour soigner les gens qui sont atteints. Je crois qu'au Brésil, ils ont dépensé presque 2 milliards de réals, donc à peu près 300-400 millions dans la prévention, ce qui n'est pas rien pour un pays comme le Brésil. Vous avez ensuite les coûts humains qui ont des impacts économiques importants. Si on prend la grippe, c'est plusieurs centaines, et dans les années où l'épidémie est sérieuse, quelques milliers. Donc ça, c'est un coût sur l'économie. Et puis, vous avez les coûts sur la productivité du pays, puisque vous avez des gens qui sont malades, même s'ils sont pas gravement malades. En tout cas, ils sont beaucoup moins productifs. Donc, vous voyez que ces trois facteurs-là entraînent, par exemple, pour la grippe, qui a des coûts totalement sous-estimés, à peu près 1 à 2 milliards de coûts par an en France, de 100 à 200 millions juste pour le système de soins. Mais encore une fois, c'est une toute petite partie de l'impact économique que ça peut avoir. Donc, je pense que, encore une fois, ces coûts-là sont très sous-évalués. Et puisque on parle d'endémie, c'est-à-dire de risques qui sont régionalisés, parce que là, on a un effet de mondialisation. Vous avez une extension des zones d'épidémie qui sont relativement inquiétantes, et l'activité économique n'aime pas ces incertitudes-là. Pour finir sur le Brésil, tout dépend aussi de la durée du choc. Parce que si vous contenez l'épidémie relativement rapidement, on peut considérer que l'impact sur l'activité économique sera faible. Imaginez si au moment de, par exemple, des JO qui devraient apporter un certain nombre de dynamisme économique, vous avez toujours cette épidémie-là. Là, on peut considérer qu'il y aura un coût très important.
On en parlera dans le détail d'ici 10 minutes avec Gaspard Estrada, analyste politique spécialiste du Brésil. Toujours sur la propagation, la vitesse de propagation de ce type de virus, hein, professeur Delfrécy. On a l'impression que la propagation des virus se fait de plus en plus vite. Revenons sur Ebola, justement, puisque vous étiez venu nous en parler il y a un an et demi à peu près, lorsque la maladie, elle avait été découverte dans les années 70. Hein. En tout cas, bon, elle concernait des zones très circonscrites, rurales principalement, et puis donc avec l'extension des villes, bien entendu, l'arrivée de paysans dans les villes, tout ça s'est propagé extrêmement rapidement. C'est un exemple, il y en a d'autres, hein.
Oui, il y en a d'autres. Enfin, c'est le lien finalement entre certaines épidémies et potentiellement pandémies virales, avec à la fois les phénomènes de société et puis peut-être aussi le réchauffement climatique. Alors autant pour Ebola, j'ai toujours été assez en retrait sur ce problème du réchauffement, et on était plus dans les modifications de société, y compris dans des pays aussi pauvres que ces trois pays d'Afrique de l'Ouest. Autant sur Zika, les choses sont plus compliquées. Pourquoi ? Parce que Zika est transmis par un moustique.
Le moustique tigre.
Et c'est alors le moustique tigre. Entre autres, il y a un deuxième moustique de la même famille qui s'appelle Égypti, mais qui n'est pas en Europe, mais qui existe ailleurs. Et le moustique pique quelqu'un qui est infecté, survit parfaitement d'ailleurs avec ce virus. Hein. Et c'est passionnant de savoir pourquoi un moustique, lui, est un réservoir qui résiste. Et puis ensuite, va piquer quelqu'un. Et puis ensuite, donc il n'y a pas de transmission interhumaine, contrairement à Ebola. Donc chaque maladie, finalement, a ses propres... Mais là, c'est vraiment avec le moustique. Or, les cartes de moustique, ça, elles sont assez claires. Il y a bien une relation entre l'apparition de tel ou tel moustique, et en particulier pour le tigre, qui n'existait pas en France jusqu'il y a assez peu de temps, et ce qui est en train de se passer en termes de réchauffement climatique. Donc il y a vraiment de grandes questions sociétales qui sont au cours de ça et qui dépassent très largement une crise sanitaire. Et vous faisiez allusion à Davos. Le vrai problème, c'est que derrière la crise sanitaire, on est immédiatement avec autre chose que la crise sanitaire.
Oui, quoi ?
Eh ben, une crise sociétale et une crise politique.
Oui, alors justement, ça tombe bien, parce qu'en effet, toutes ces modifications de société, Christian Sommade, vous êtes délégué général du Haut Comité français pour la défense civile. Compte tenu de ces contingences, donc de modifications de la société, les campagnes qui se déplacent dans les villes, le tourisme, les avions, est-ce que vous avez l'impression que les moyens déployés par les pouvoirs publics, les autorités, est-ce qu'elles ont tous les moyens pour faire barrage à ces épidémies ?
Vous savez, c'est un problème de, j'irais, d'analyse de risque et de coûts en face. Je voudrais revenir juste sur Ebola. Parce qu'Ebola, aucun laboratoire n'était vraiment intéressé pour développer un vaccin. pendant des années, la maladie, elle est connue. On a commencé à mobiliser de l'argent. D'abord, c'est les Américains qui ont mobilisé de l'argent, parce qu'ils ont des programmes spécifiquement pour ça, en matière notamment de bioterrorisme, qui ont été étendus sur le côté Ebola. Ça s'appelle BioShield, ça s'appelle FEMS, enfin, ils ont tout un ensemble, et ils fournissent beaucoup d'argent à la recherche sur des maladies qui sont des maladies considérées comme des impacts de sécurité nationale. Mmh. Mais ce sont les seuls à faire ça dans le monde. Quasiment les seuls. Donc aujourd'hui, ils se retrouvent évidemment fournisseurs de moyens dans des laboratoires publics ou privés, effectivement avec une réponse sanitaire parce qu'ils ont compris les enjeux. Mais il y a très peu en Europe, il n'y a pas de, si vous voulez, au niveau de la DG Sanco, il y a pas ce niveau-là. On réfléchit simplement à faire des stocks en commun en ce moment. Mais on en est au balbutiement.
Parce que quoi, Ebola, c'est loin, c'est l'Afrique, c'est la Guinée, c'est la Sierra Leone, enfin du pays dont tout le monde se moque quelque part, non ?
Oui, bah c'est-à-dire que si vous voulez, les ressources, elles sont déjà pas là pour un certain nombre de maladies connues et de pathologies importantes. Donc, faut faire des arbitrages et souvent, ces arbitrages ne vont pas à des maladies qui sont effectivement extrêmement dangereuses si elles arrivent soit sous le mode volet terroriste, soit sous le mode volet pandémique. Voilà.
Et vous dites Zika, donc c'est différent, hein, donc.
Bah, Zika, le risque est beaucoup moins fort, donc il est limité à une population, donc les femmes enceintes, donc il y a des mesures de protection, mais ça va intéresser rapidement les pouvoirs publics, parce que tout ça, c'est un problème. Quand vous avez 100 cas par an, ça ne dérange personne, enfin je suis désolé de le dire comme ça, quand vous commencez à en avoir 100 000, ça va changer la donne.
Donc au Brésil, on parle d'entre 400 000 et 1 300 000 cas, par exemple. Voilà.
Le chikungunya à La Réunion, ça a mobilisé beaucoup de monde. L'établissement public de réponse aux urgences sanitaires, c'est mobilisé. Enfin, il y a eu beaucoup de choses là-dessus. Donc, si vous voulez, je crois que c'est un problème. Le vrai problème aujourd'hui, c'est de coordonner internationalement les efforts et les ressources. Et ça, il y a encore un gros travail à faire.
Et c'est une question latente, tout à l'heure, sur ce que disait le professeur Delfrécy. Est-ce que après la dengue, après le chikungunya, justement, les autorités savent tirer profit des épidémies, des différentes de ce qui s'est passé pour la suite, justement? Est-ce que finalement les autorités n'ont pas acquis un savoir-faire, finalement, au fur et à mesure?
Il y a un savoir-faire réflexe dans les aéroports, dans les prises en charge médicales, oui. Est-ce qu'il y a un vrai savoir-faire en termes
dans le déclenchement de la phase épidémique, de la planification, en Martinique,
de la recherche? Je ne sais pas, le professeur peut en dire un mot.
Professeur Delfrécy, Frédéric Bizarre.
Sur la recherche, il y a depuis maintenant un an et demi un gros effort au niveau international qui est fait, beaucoup mené par l'Europe d'ailleurs. On avait beaucoup de retard, donc on part sur une coordination internationale. À la fois, la recherche, c'est de la compétition, et c'est bien que ça soit comme ça, mais sur de la coordination internationale qui se fait, où chaque pays est une sorte de pilier de sa propre réflexion, mais ce pilier supporte une sorte de très grand parapluie, qui est un parapluie international. Donc ça commence vraiment à se faire. Mais moi, je suis un peu plus en amont. Je pense que l'idée d'échelle de risque est en effet le point essentiel. Et je dis que la crise sanitaire, ou le problème sanitaire, n'est pas encore inscrit dans le domaine des politiques ou des décideurs, comme devant être évalué dans l'échelle de risque. Je ne dis pas qu'il faut la mettre en permanence en première ligne. Le médecin que je suis ne dit pas ça. Mais il dit que la crise sanitaire doit être jugée, non pas par des professionnels de santé, mais probablement par des spécialistes du risque, comme il y a un risque de bioterrorisme, on le voit malheureusement en ce moment, comme il y a un risque terroriste tout court, comme il y a un risque des inondations.
Et ça, c'est sous-évalué en ce moment.
Et ça, c'est sous-évalué. Ouais. C'est sous-évalué de façon chronique.
Pourquoi, à votre avis?
Parce que c'est difficile, parce qu'on a séparé le problème de la santé en disant la santé, c'est un problème technique. Il faut les laisser entre eux, ils vont se débrouiller, ils vont donner les réponses. Eh bien, je dis que pour ce type de crise, et pour les 10 ans qui viennent où on va vivre d'autres choses, eh bien, il faut sortir de ce caractère un peu trop professionnel technique pour ouvrir ça, parce que, une fois de plus, une crise sanitaire devient très vite ensuite une crise sociétale. On risque de le voir, si par exemple il se confirme les microcéphalies chez les femmes enceintes au Brésil, c'est un drame humain qui peut se passer, et on le verra également aux Antilles. Donc le risque sanitaire, à mes yeux, il doit être inscrit par nos gouvernements dans le risque global, dans l'échelle de risque global.
Frédéric Bizarre, ce que vient de dire le professeur Delfrécy, je lisais les mots d'ordre du ministre salvadorien de la Santé, qui suggère aux femmes en âge de procréer de les éviter cette année, de planifier leur grossesse. Le gouvernement colombien qui conseille lui aussi d'éviter toute grossesse dans les 6 prochains mois. Même recommandation au Honduras, en Jamaïque. On verra ce qui se passe au Brésil. C'est pas un peu étrange quand même de lancer ce type de mot d'ordre ?
Si, c'est extrêmement étrange et je crois qu'il y a, vous savez, en matière d'économie, l'essentiel c'est d'évaluer votre risque pour investir. Et est-ce que M. Sommat dit, il n'y a pas de coordination en plus de l'évaluation du risque entre les pays ? Et ça c'est quand même dramatique parce que je pense qu'en matière de sécurité sanitaire, vous n'en faites jamais assez. Je pense que le principe, il est d'en faire plutôt trop que pas assez. Mais avant qu'il y ait véritablement l'extension de l'épidémie. Donc là, je vois d'ailleurs en France et en Europe, je pense qu'il y a une insuffisance de prise en compte des risques, de réévaluation des risques. Imaginez-vous qu'en France, on est quand même sur un débat de se dire que finalement, on va peut-être mettre fin à l'obligation de vaccination. Donc, on voit bien que, de mon point de vue, c'est peut-être une évolution sociétale, mais ça serait d'ailleurs un débat à faire. Mais c'est là où on voit que véritablement, parce qu'il y a de moins en moins de cas, mais même si ce ne sont pas des crises économiques, même s'il n'y a pas de coûts économiques très forts, ce sont des crises sociales, ce sont des crises humaines. Là, on parle de 3500 microcéphalies. C'est-à-dire que vous avez quand même, à ce jour, 3500 bébés qui vont naître avec une boîte crânienne qui est deux fois plus petite que la boîte crânienne normale. Bon, c'est déjà quand même, en soi, déjà un drame social. Donc, je pense qu'il faut en permanence réévaluer les risques, mais surtout, comme ça a été dit, il faut arriver à avoir une coordination mondiale, puisqu'on a une mondialisation des épidémies, du risque, et je pense qu'on devrait être capable de le faire.
Comment on fait dans des régions comme l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, assez catholique justement, où l'avortement est interdit, où la contraception n'est peut-être pas forcément extrêmement répandue? Comment est-ce qu'on suit ce type de mots d'ordre qui sont donnés au Honduras, en Jamaïque, etc., Frédéric Bizarre?
Bah d'abord, on suit, encore une fois, lorsque le drame n'arrive pas, on suit en essayant d'intervenir le plus tôt possible et de prévenir au maximum au sein de la population.
Les mots d'ordre ne sont peut-être pas forcément toujours bien compris, nécessairement.
Mais oui, mais là aussi, encore une fois, par rapport à un risque, je pense qu'il y a un plan sanitaire d'éducation de la population à faire. Vous inquiétez pas, la population, même si elle n'est pas très éduquée et pas très riche, elle est parfaitement capable de comprendre ce genre de choses. Il faut savoir que dans ces pays-là, ils sont quand même en permanence confrontés au risque épidémique. Donc ils ont l'habitude de ces mots d'ordre, sauf qu'on intervient dans les modes de vie, parce qu'il faut aller là où sont les larves, là où dans les jardins, où il y a les... Donc c'est extrêmement compliqué, parce que vous intervenez dans les modes de vie des gens, et souvent les gens, eux aussi, sous-estiment le risque.
Et question à l'économiste, l'impact ensuite sur la démographie de ce type de demande. Ouais. Ne faites pas d'enfants, tout simplement.
Non, mais on l'a vu en France, on a vu en 2015 une baisse une hausse de la mortalité, une baisse de l'espérance de vie.
Et
on
suite l'a... à quelques épidémies, justement, de grippe, oui.
On en parle la semaine dernière. On l'a attribué de façon un peu excessive, parce qu'il y a probablement des éléments de fond qui sont moins avouables, d'un vrai problème, je pense, en termes de politique sanitaire. Mais en tout cas, on voit que la grippe en France peut avoir un impact sur une année en termes de hausse de la mortalité. Donc c'est évidemment le cas pour les autres pays aussi.
Bon, on va continuer. Dans un instant, est-ce que le monde est prêt à combattre ce type d'épidémie avec notamment l'impact économique dans les Antilles, l'impact également au Brésil, d'autres décodeurs à suivre. On continue, évidemment, je rappelle le livre de Frédéric Bizarre sur les complémentaires santé. Le scandale, hein, on les retrouve tout de suite. Restez avec nous sur BFM Business.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business. L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Et on continue. Le monde est-il prêt à combattre la prochaine épidémie, hein, coronavirus, dengue, chikungunya? Et on parle évidemment du Zika. Le Zika, ce virus propagé par des moustiques, notamment le moustique tigre, hein, qui continue sa progression dans toute la zone Amérique, hein, les Antilles, les Caraïbes, l'Amérique centrale, le Brésil aussi. Hein. Voilà, la réponse à cette question la semaine dernière à Davos, c'est non, pas vraiment. On n'a pas forcément les moyens de combattre toutes ces épidémies. Oui, parmi les pays les plus touchés par Zika, c'est le Brésil où la panique gagne, c'est ce que nous raconte Jean-Baptiste Huet.
Le Brésil fait partie des pays les plus touchés par le virus Zika. Les chiffres qui circulent évoquent entre 400 000 et plus d'un million de personnes infectées. Presque 4 000 cas de malformations ont été détectés sur des enfants. La microcéphalie, des bébés qui naissent avec des petites têtes, une situation qui déclenche une véritable psychose dans le pays. Le carnaval de Rio débute dans 10 jours, les Jeux Olympiques dans à peine 6 mois. Et le problème, c'est qu'il est très difficile de contrôler les foyers de moustiques, en particulier dans les très nombreuses favela qui entoure Rio. Le ministre de la Santé brésilien est même particulièrement pessimiste. Pour lui, les moustiques sont en train de gagner la guerre. Et il recommande même aux femmes d'éviter de tomber enceinte en ce moment. Une lueur d'espoir cependant, les Jeux Olympiques doivent se dérouler pendant l'hiver austral, une période pendant laquelle il y a moins de moustiques.
Voilà, on va en parler notamment avec vous. Bonsoir Gaspard Estrada. Gaspard Estrada, analyste politique spécialiste du Brésil, à l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Avec nous également Jean-Pierre Philibert, bonsoir.
Bonsoir.
Président de la Fédération des entreprises d'outre-mer. Vous nous direz ce qui se passe dans un instant justement dans les Antilles, en Guyane également. Gaspard Estrada, on vient de suivre le sujet de Jean-Baptiste Huet avec... des cas. Alors on parle de 400 000 à 1 300 000 cas, justement. On est à la veille du carnaval, hein, justement, où des anti-moustiques ont été aspergés encore cet après-midi sur le Sambadrome, donc 900 mètres sur le long du parcours. Hein. Comment les autorités locales réagissent-elles ?
Bon, il me semble que, et d'ailleurs le sujet l'a bien montré, il me semble qu'il y a eu une erreur de communication de la part du gouvernement fédéral, dans le sens où le ministre de la Santé a justement fait ses déclarations assez pessimistes sur la capacité de réaction du gouvernement fédéral et des autorités fédérées. Il s'agit d'un pays fédéral où les États fédérés ont des compétences importantes en matière de santé publique. Donc, de ce point de vue-là, la présidente a décidé un peu de rappeler à l'ordre son ministre et a décidé de concentrer en fait l'action du gouvernement fédéral autour du ministre de la Maison civile de la présidence, justement pour pouvoir mieux coordonner ses actions. Un plan d'envoi de 220 000 militaires a été décidé par la présidente justement pour distribuer et pour faire des actions de prévention pour éviter justement le développement de ce virus justement dans les zones où il n'y a pas d'accès aux soins.
Mais la population, elle a conscience justement de cette épidémie. Est-ce que la vie économique est freinée du coup ou pas? Ou chacun essaie de vivre librement, tant bien que mal?
La vie continue.
La vie continue.
Mais je crois que de ce point de vue-là, la communication est fondamentale, justement pour faire que ces actions de prévention aboutissent et évitent la propagation du virus. Donc le fait qu'il y ait justement cet envoi de militaires dans les rues, concrètement, pour communiquer et pour faire en sorte que la société, que la population brésilienne adopte les mesures adéquates pour éviter cette propagation, il me semble qu'il s'agit de mesures fondamentales et la présidente est en train, en quelque sorte, de changer de braquet sur ce sujet.
Jean-Pierre Philibert, on va s'intéresser avec vous, puisque vous présidez la Fédération des entreprises d'outre-mer, hein, la Martinique, les côtes du Guyane ont été placées donc sous situation au stade épidémique, hein, par les autorités, par la préfecture, donc sur place. Là-bas aussi, comment est-ce qu'on vit, à quoi ressemble la vie économique dans ces départements français?
J'allais dire, comme vient de le dire mon voisin, la vie continue. On a malheureusement une certaine habitude maintenant du chikungunya, de la dengue, qui sont quasi permanentes, même si les seuils épidémiques peuvent varier selon les années, et que en dehors de la Réunion, où vraiment la crise du chikungunya a été une vraie, par son ampleur, par le fait qu'elle a surpris beaucoup de monde, où a vraiment entraîné une vraie désorganisation de l'économie réunionnaise et durable. Les crises, alors je ne sais pas ce que sera le Zika, naturellement, mais aussi bien la crise du chikungunya que nous avons connue aux Antilles, la dengue, ont été relativement bien absorbé. Les gens ont dû, naturellement, les populations s'adapter à des moyens. J'aimais ce que vous disiez tout à l'heure, parce que traditionnellement, l'habitat, les modes de vie fait qu'on n'avait pas, on ne luttait pas, on ne savait pas bien comment lutter. Il y a eu des efforts très considérables qui ont été faits, notamment à l'instigation des pouvoirs publics.
Ça veut dire, la question que je posais tout à l'heure, notamment au professeur Delfrécy de l'INSERM, qui est toujours avec nous, à qui j'ai encore plein de questions à poser, ça veut dire que on a tiré donc des leçons également des précédentes épidémies, y compris dans la vie quotidienne de la population, y compris dans la vie économique. Voilà, quelque part, une sorte de Alors, je dis pas de résignation, c'est pas du tout ça, mais d'habitude en tout cas, et on sait faire face.
Ah, je dirais pas de résignation, parce qu'on a appris des gestes, effectivement, qu'on n'avait pas et qui ont permis de lutter. Je me souviens d'une campagne, parce que j'étais à ce moment-là en Martinique, où on appelait dans les cimetières comment organiser les cimetières pour éviter que la tradition de mettre des fleurs en pot avec un petit bac en dessous, eh bien, soit éradiquée. C'était compliqué, on l'a fait. Non, je dis qu'on a, on vit avec. Alors, d'autres difficultés, elle est autre, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, c'est la façon dont les touristes peuvent ressentir ce phénomène-là et les répercussions sur notre activité et notre industrie touristique.
On parlera du tourisme, on parlera aussi du secteur aérien tout à l'heure, d'ici un quart d'heure notamment avec d'autres invités. Juste un mot, Christian Soma, délégué général du Haut Comité français pour la défense civile, quand on entend Jean-Pierre Philibert, quand on entend Gaspard Estrada, les populations, quelque part, peu ou prou,
les populations
commencent un petit peu à intégrer cette donnée.
Elles intègrent la donnée quand le risque est présent et que le risque est bien communiqué. Le problème, c'est la communication du risque. C'est un véritable enjeu parce qu'il faut à la fois faire en sorte que les gens soient vigilants, adoptent des règles, ce qui n'est jamais très facile au sein d'une population, et que d'autre part, on n'aille pas dans la psychose ni dans la panique. Donc c'est un équilibre et c'est comme ça que l'on forge des sociétés qu'on appelle résilientes. Et c'est un véritable travail, je dirais, à la fois des pouvoirs publics, mais pas seulement, c'est un véritable travail sociétal de l'ensemble des acteurs, à la fois économiques, politiques et sociaux, de travailler sur ces notions-là, parce que c'est toute la nature de la prise de risque et de la compréhension du risque.
Alors, les pouvoirs publics, justement, professeur Delfraissy, à Davos, la semaine dernière, cette question, le monde est-il prêt à combattre la prochaine épidémie ? Réponse, pas vraiment, je cite le docteur Chan, qui est la directrice générale de l'OMS. Le monde est mal préparé, disait-elle. Justement, est-ce qu'on sait d'où partira la prochaine épidémie ? Quelle sera la maladie ? D'où viendront les vaccins ? C'est quoi les maladies les plus susceptibles, justement, de virer à la pandémie ? Qu'est-ce qu'on regarde spécialement aujourd'hui ?
Alors, on a toute une maintenant des réflexions dans les différents pays, aux États-Unis, en France. La France est très en avance là-dessus, en Angleterre aussi. Sur finalement, est-ce qu'on peut prévenir l'imprévisible dans le domaine du sanitaire ? Et la réponse est non. Moi, je préfère dire la vérité très cash. La réponse est non. Et donc, on peut par contre prévoir que ça sera probablement un virus, parce que voilà, pour toute une série de raisons, qui viendra pas forcément d'Asie du Sud-Est ou de pays totalement inconnus des Français du fin fond de l'Afrique équatoriale. Qui pourra venir éventuellement d'une mutation d'un virus déjà existant en France. La mutation d'un virus grippal reste une vraie question, si on se place sur une vingtaine d'années. Et ce qu'on peut prévoir donc, c'est, et puis des choses totalement inattendues. Par exemple, ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le coronavirus, personne ne s'était pas du tout dans les tuyaux des scientifiques.
Un coronavirus, je vais peut-être dire d'énormes bêtises, mais ça venait donc de la région d'Arabie Saoudite, des pays du Golfe. Il m'a dit qu'il touche les poumons, c'est ça ?
Qui touche les poumons, voilà, qui est parti ensuite, qui a été transféré sur l'Asie du Sud-Est, et à cause, là aussi, des différents mécanismes de transport.
Et ça, ça vous a surpris ?
La vie sociale. Oui, ça nous a surpris.
Pourquoi ?
Parce que c'était pas du tout dans notre agenda. Et il faut savoir être modeste.
Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Quand on nous dit, voilà, il y a le coronavirus qui arrive, vous n'avez pas prévu.
Alors, on n'est pas démunis. On n'est pas démunis pour trois raisons. C'est-à-dire qu'on peut préparer une attitude de réponse d'ordre médical, sanitaire, mais ce qui a été dit est vrai, c'est-à-dire c'est pas seulement du tout du sanitaire, c'est une réponse véritablement globale des différents acteurs, c'est pour que ça marche dans ce type de pandémie. Et je dirais les mettre par rapport à un facteur X, qui va être un virus qu'on ne connaît pas, mais qui en fonction, par exemple, du nombre de personnes touchées, ou de la gravité, par exemple, en effet, le cas d'une atteinte de l'enfant au cours de la grossesse est un des schémas possibles. Et on peut prévoir à l'avance un certain nombre de réponses. Ça, c'est un premier élément d'organisation de la réponse. Le deuxième, c'est que si c'est les virus, eh bien, il faut penser à deux choses au niveau plus médical. Est-ce qu'on a des médicaments, des antiviraux qui permettent éventuellement de lutter contre ce virus ? Et deuxièmement, y a-t-il des vaccins ? Et donc, c'est toute la stratégie, en effet, d'être prêt pour des vaccins et la construction de vaccins contre des virus.
Dans le Zika, il n'y a pas de vaccin.
Et alors, il se trouve que dans le Zika, où j'ai bien insisté sur le fait que Zika n'est pas une maladie grave en soi, dehors de ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la microcéphalie, nous n'avons ni médicaments, en tout cas pour l'instant. C'est pas exclu qu'on les ait très vite dans les semaines qui viennent, parce que la recherche va très vite aussi, et parce que c'est un virus qui est proche d'autres virus qu'on connaît déjà. Et puis, vaccin, parce que là aussi, il y a toute une problématique où on sait maintenant construire des vaccins de façon beaucoup plus rapide qu'on ne le faisait auparavant. Donc, tout ça, c'est des éléments de réponse, mais il ne faut pas se leurrer. Tout ça, ça nécessite d'avoir des moyens et ça nécessite d'avoir une gouvernance de la décision. Et cette gouvernance de la décision, la France a choisi, le gouvernement français a choisi, c'est l'OMS qui doit l'avoir. Parce que si c'est pas l'OMS qui l'a, eh bien, ça sera une grande organisation américaine de type la Gates Foundation, par exemple. Eh bien, nous souhaitons, je souhaite en tant que scientifique, que ça soit une organisation de type OMS, quelles que soient les critiques qu'on peut faire à l'OMS.
Christian Sommade et Frédéric Bizard.
Oui, la vraie question de toute la construction de ces contre-mesures médicales, c'est effectivement d'une part la gouvernance, deuxièmement l'organisation pour faire construire des réponses à très haute vitesse, parce qu'on peut être amené en quelques semaines à devoir construire ce type de réponse. Et aujourd'hui, la vraie question, et je pense que c'est ce que voulait dire Madame Chen, c'est que tous les mécanismes n'existent pas encore au niveau de l'OMS pour construire ces réponses à très haute vitesse. Parce que c'est en quelques semaines qu'il faut être capable de mettre des dizaines d'équipes de laboratoires, de l'industrie pharmaceutique en route. Et aujourd'hui...
Et ça, on sait faire.
On ne sait pas très bien faire. Ouais. Parce que quand on regarde Ebola, ça a quand même pris plusieurs mois, voire quasiment une année à démarrer avec... Donc on sait pas encore, à mon avis, très bien fait.
Mais on va plus vite, quand même.
On va beaucoup plus vite qu'avant.
Et on va mieux, semble-t-il, Frédéric Bizard. Je regardais dans les objectifs de développement de l'ONU, donc du mois de septembre. Que disait-elle, l'ONU? Les nouvelles infections dues au sida ont diminué de 40% entre 2000 et 2013. Le paludisme, le taux mondial de mortalité a diminué de presque 60%. La tuberculose, le taux de mortalité a reculé de 45% entre 90 et 2013. Tranquillement mais sûrement, on arrive quand même, malgré tout, à vaincre certaines maladies, certaines épidémies.
Mais c'est clair que le XXe siècle a été quelque part un peu un siècle où on a réussi à vaincre les principales maladies infectieuses, et le XXIe sera le siècle où il faudra vaincre les maladies chroniques. Donc ça, on est rentré dans l'univers des pathologies chroniques aussi parce qu'on a réussi à éradiquer une bonne partie des pathologies infectieuses. Alors concernant le Brésil, en écoutant le professeur Delfrécy, il faut voir qu'à mon avis, on rentre dans une deuxième phase de la pathologie qui à mon avis, là, est une phase beaucoup plus coûteuse et incertaine, parce que vous avez une première phase où vous prenez des mesures pour éviter dans là où il y a les larves, pour éviter qu'il y ait une extension de la pathologie. Mais là, vous avez près d'un million de personnes qui sont infectées, et sauf erreur de ma part, ce sont ces personnes-là qui sont les réservoirs du virus qu'il faut aller diagnostiquer et qu'il faut aller isoler ou traiter si on peut les traiter. Or, quand vous êtes dans un pays comme le Brésil, extrêmement étendu avec des zones extrêmement pauvres, là, vous rentrez dans une grande complexité de prise en charge, et là, dans des coûts qui sont importants, parce que vous pouvez véritablement paralyser l'activité économique pour éviter l'extension du virus. Donc, on voit bien qu'à ce stade-là, il y a une certaine aussi incertitude, on parlait beaucoup d'incertitude par rapport au risque, mais sur l'évolution des coûts économiques, qu'on estime assez peu importants aujourd'hui, mais ils peuvent être relativement conséquents pour une économie comme le Brésil.
Alors, témoignage de Gaspard Estrada, de Jean-Pierre Philibert. Estrada sur le Brésil, et ensuite Jean-Pierre Philibert pour l'outre-mer.
Je crois qu'à l'image du Brésil en général, le Brésil est un pays très inégal, et c'est également le cas dans l'accès aux soins, notamment dans les zones rurales et dans les banlieues des grandes zones métropolitaines. Et c'est justement là où l'armée va être appelée en renfort, parce que c'est justement là où il y a peu de médecins et où justement le gouvernement brésilien avait déjà pris en quelques mesures en 2013, notamment lorsqu'un programme qui s'appelle Mais Médicos, plus de médecins, avait été lancé, où plusieurs dizaines de milliers de médecins qui venaient à l'origine de Cuba, avait été recruté par le gouvernement brésilien justement pour essayer de combler cette lacune et ces inégalités spatiales en ce qui concerne l'accès aux soins. Aujourd'hui, avec l'apport de l'armée, ce qu'on vise, c'est justement à densifier ce maillage territorial justement pour éviter la reproduction de ce virus.
Jean-Pierre Philibert, à la tête de la Fédération des entreprises d'outre-mer.
J'entends des choses passionnantes, mais je voudrais peut-être me recentrer un petit peu sur ce qui est mon domaine de compétence, c'est-à-dire les conséquences pour l'économie. J'ai entendu des choses très intéressantes, je vais y revenir dans un instant, sur ce qu'a dit tout à l'heure sur la gestion des crises, ce qu'a dit le professeur Desfoissy. Moi, je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent qu'il faut que, naturellement, on soit extrêmement attentif à ne pas rajouter à une crise sanitaire, une crise économique et, par conséquent, une crise sociale. J'observe que dans le monde, tous les jours, il y a des touristes nombreux qui continuent d'aller dans des zones où le paludisme sévit de façon endémique. On a des précautions. La plupart des guides à l'initiative, je crois que c'est historiquement le guide du Routard qui a le premier mis une petite page, un certain nombre de pages sanitaires en disant, voilà, vous allez dans tel pays, voilà quelles sont les précautions qu'il faut prendre. Et ce qui m'amène à la gestion de la crise. Ce que vous avez dit tout à l'heure, professeur, est extrêmement intéressant. Soit les crises sont gérées exclusivement par les médecins, et pardon, ça fout un peu la trouille, même si vous avez dit très clairement que le Zika... ce que vous avez dit après m'a reconforté, en disant que le Zika, pardon, ça n'est pas Ebola, ça n'est même pas la dengue hémorragique qu'on connaît, ça n'est pas la maladie de l'homme courbé, le chikungunya, qui a des conséquences extraordinaires, c'est une maladie dont vous avez dit que pour la femme enceinte, il y avait un risque, et puis... un certain nombre de cas de Guillain-Barré, mais enfin bon. Donc c'est quelque chose, je crois que tous ceux qui nous écoutent, ils vont pas demain, s'ils prennent l'avion pour aller outre-mer, soit entreprendre, soit faire du tourisme, c'est pas un risque, j'allais dire, vital.
Vital, oui, bien sûr.
Ce qui m'amène à dire que dans cette gestion des crises, je crois qu'il faut prendre ces trois aspects. Je reviens bien sur ma strate. Ne rajoutons pas, vous avez, et on a le droit, vous avez raison d'informer, vous avez le droit de nous alerter. Et puis on a peut-être le droit de se dire à un moment donné... So what, comme disent les anglo-saxons. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois qu'on fait, on se protège. Tous ceux qui vont aux Antilles, à la Réunion, savent que le soir, il faut peut-être se couvrir les chevilles et qu'on met des produits anti-moustiques, qu'on met des révulsifs, etc. Et puis la vie est belle. Et on peut en profiter, on peut en trouver. On va pas demain prendre un risque mortel parce qu'on va aller outre-mer, dans nos outre-mer françaises. Donc on a... Nos populations sont alertées, il y a un certain nombre de gestes, etc., de réflexes qu'ils ont, et puis il y a celui qui vient sur nos territoires, qui doit avoir ces mêmes gestes, encore une fois, simples et élémentaires de protection.
Alors un mot, professeur Delfrécy, parce que vous allez nous quitter dans quelques instants.
Non, juste pour dire que moi, je partage l'analyse, et une fois de plus, je suis le premier à dire que dans ces crises sanitaires, c'est une réponse globale qu'il faut. Hein. Vraiment, j'en suis maintenant... totalement persuadé après avoir vécu 2-3 très grosses crises.
Le monde, il est prêt à combattre ces épidémies?
Et le monde, en tout cas, est mieux préparé qu'il y a 5 ans, mais il y a encore un effort à faire. Juste sur Zika, la seule nuance, c'est les femmes enceintes.
Oui.
Et elle est de taille. C'est-à-dire que, les femmes qui sont en Martinique ou qui sont dans les Caraïbes, voilà. Mais si on est enceinte et qu'on est métropolitaine, je veux dire que c'est peut-être pas le meilleur moment pour aller aux Antilles en ce moment. Voilà. On regarde du bon sens.
Les États-Unis d'ailleurs ont déconseillé ce pays justement.
Je l'accepte, c'est du bon sens et ça fait partie des éléments de réponse.
On va vous retrouver dans un instant, Jean-Pierre Philibert, président de la Fédération des entreprises d'outre-mer, avec d'autres questions. Tiens, vous verrez également, comment prévenir, comment détecter la prochaine épidémie, peut-être aussi grâce au digital, aux réseaux sociaux. Restez avec nous, je salue bien sûr Jean-François Delfrécy, professeur directeur de l'Institut de microbiologie et des maladies infectieuses de l'INSERM. Bonne soirée, bon retour, tous les autres vous restez, puis on fera rentrer d'autres décodeurs de l'écho passionnants ce soir, médecine, science et économie dans les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business. L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Et on parle de cette extension fulgurante de l'infection par le virus Zika qui est propagé donc par un certain nombre de moustiques, notamment le moustique tigre qui est en train de contaminer l'ensemble de la zone Amérique. Pour l'instant, la moitié des pays est touchée, une vingtaine de pays sur 50 à peu près. Alors, c'est pas mortel, il n'y a pas de vaccin, il y a des conséquences, comme nous le disait tout à l'heure le professeur Delfrécy, qui peuvent être très désagréables, notamment en matière de paralysie, de troubles neurologiques, et surtout chez les femmes enceintes, le risque de faire naître des enfants avec des petites têtes. Mais pour l'ensemble, la grande majorité des cas, il n'y a aucun danger. On ne le sait peut-être pas forcément. Voilà, on parle du Zika, mais on pourrait parler du chikungunya, on pourrait parler d'Ebola, du coronavirus, toutes ces infections qui arrivent régulièrement. Est-ce que le monde est-il bien préparé pour combattre ces épidémies? On continue d'en parler avec nos décodeurs de l'écho, et notamment Gilles Gompers, directeur général d'Avico, leader de l'affrètement aérien en France. Bonsoir. Bonsoir. Spécialiste du transport aérien, vous venez nous en parler chaque fois qu'il est question d'aérien. Oui, le secteur touristique, le secteur aérien, justement, est-il impacté par le Zika en particulier et ses épidémies en général.
Oui, le secteur aérien est impacté par toutes les crises, et je dirais pas seulement les crises sanitaires, mais aussi les crises politiques, le terrorisme. C'est vrai qu'à l'échelle du monde, il y a toujours une crise quelque part, le transport aérien est toujours plus ou moins impacté. Alors, il est clair aussi qu'on a la chance qui va avec la contrainte, c'est que quand une destination est impactée, a priori, il y a souvent des reports vers d'autres destinations, et les avions sont relativement mobiles et peuvent effectivement suivre dans une certaine mesure effectivement ces reports. C'est vrai pour les compagnies qui ont une grande empreinte à l'échelle du monde, c'est beaucoup moins vrai pour des compagnies qui sont sur une niche quand cette niche est elle-même impactée.
Gilles Gompers, on peut dire aussi que le secteur aérien, le transport aérien aussi, est un vecteur de choix pour transmettre aussi toutes ces épidémies dans le monde entier, puisqu'on en parle principalement depuis une vingtaine d'années, depuis l'explosion du transport aérien.
Oui, le risque passe naturellement par le transport aérien. Et effectivement, la crainte d'avoir une épidémie se transférer comme ça à la vitesse d'un avion d'un continent à l'autre est très inquiétante. Ceci étant, ces risques sont connus et ils sont relativement bien maîtrisés parce que le transport aérien se fait dans des espaces confinés, les aéroports, les avions. Et puis, la transmission par les moustiques, c'est un vieux sujet. Il y avait le paludisme, il y avait quand même de la fièvre jaune. Et là, il y a des réponses qui sont adaptés. Vous avez certainement pris un avion en venant d'un autre continent et puis on désinsectise l'avion.
La bombe.
Absolument.
Ouais.
C'est une réponse qui fonctionne, ça fonctionne bien. Et effectivement, c'est la même réponse à la même question. C'est pas le même virus, mais c'est bien effectivement la même question d'un virus transmis par un moustique.
Donc face à toutes ces épidémies, le transport aérien, lui, s'est blindé.
Oui, il n'y a pas de risque zéro. Mais en tout cas, le risque, il est bien connu, il est bien traité par tous les acteurs.
Vous parlez de report, vous l'avez noté justement, en direction des zones contaminées depuis quelques semaines par le Zika.
C'est encore un petit peu tôt pour le dire, mais je dirais que c'est tellement classique, c'est tellement standard qu'il y a forcément des gens qui sont inquiets, surtout les touristes qui ont un grand choix effectivement dans les destinations. Et à chaque fois qu'il y a un événement marquant, effectivement, ils vont se tourner vers une autre destination très naturellement, ce qui est sans doute moins vrai du trafic business ou du trafic affinitaire qui est plus attaché à une destination.
Jean-Pierre Philibert, président de la Fédération des entreprises d'outre-mer, les entreprises du tourisme, justement, ont-elles à souffrir en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, là où ont été donc décrétés l'état d'épidémie
Alors, pour le moment, non. Nous allons arriver notamment aux Antilles dans la très belle saison dite du carnaval, enfin, celle qui est une des plus attractives, c'est l'été austral à La Réunion. Elles ont bas, mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il y a potentiellement un risque sur une économie touristique qui est déjà fragile, outre-mer, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer. Donc je vais prendre un exemple que tout le monde comprendra bien quand je demande la juste information. Et je suis heureux d'entendre aujourd'hui une juste information sur une épidémie dont on nous dit il y a des risques, enfin c'est pas Ebola. Lorsqu'on a eu la crise du chikungunya à La Réunion, on a, pour être très clair, surinformé nous. C'est-à-dire qu'on avait peur. Maurice, à côté, il y avait le même moustique-tigre. Il y avait le même chikungunya, pas un mot. Résultat, tous les touristes sont allés à Maurice parce qu'il n'y avait pas de chikungunya, parce qu'on n'informait pas, et ils ne sont plus allés à La Réunion parce qu'on a fait peur.
Dramatisé un peu.
Parce qu'on a dramatisé. Donc je ne demande pas qu'on n'informe pas, je ne demande pas le blackout.
Parce que ça, on vous le reprocherait, par contre.
La juste information. La juste information.
Christian Sommade, vous qui êtes le délégué général du Haut Comité français pour la défense civile, c'est toute la difficulté entre informer, la nécessaire information, sans dramatiser, sans exagérer, justement. Et ça aussi, ça concerne aussi les plans mis en place par les autorités publiques. On se souvient comment Mme Bachelot avait commandé des mégatonnes de vaccins. J'en sais rien. A-t-elle bien fait? A-t-elle mal fait? Enfin, en tout cas, c'est resté sur le plancher.
Oui, disons qu'à l'époque, de toute façon, elle n'avait pas beaucoup de choix parce que la pression, quand même, scientifique était très forte.
L'opinion aussi, probablement.
L'opinion pas trop parce que l'opinion attend des réponses des sachants. Donc, c'est bien ce que monsieur dit, finalement. On attend une information juste et équilibrée.
Ouais.
Et si vous allez dans le concept de précaution absolue, bah forcément, il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. De toute façon, on a des risques tous les jours. Quand je prends ma moto, je prends un risque. Donc, si vous voulez, le problème, c'est d'équilibrer les choses. Et il y a probablement en France beaucoup plus, et en Outre-mer, beaucoup plus d'autres risques à mettre en ligne de compte que celui-là pour, effectivement, 95% des populations concernées. Donc, si vous voulez, le risque sanitaire, c'est pas la même chose quand on parle du Zika. c'est pas la même chose quand on parle de l'Ebola, qu'on doit se rendre dans un pays où là, il y a une époque où il y avait plusieurs milliers de cas infectés, ou lorsque on va dans, je dirais, en Chine, dans certains endroits où on risque d'être contaminé par le virus aviaire, bon, etc. Donc le problème, c'est vraiment des comportements individuels, de comprendre ce qu'est l'infection et d'agir en conséquence. Mais il faut pas être paranoïaque de ces questions-là, parce que effectivement, d'abord, ça est négatif pour l'économie, mais c'est négatif pour la vie tout court.
Oui, concrètement, Gaspard Estrada, analyste politique spécialiste du Brésil, il y a deux événements qui arrivent là dans quelques semaines et quelques jours au Brésil. Majeur pour le Brésil, c'est le carnaval de Rio, bien entendu, et puis d'ici moins de 6 mois, les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, justement. Quelle politique les autorités ont-elles lancé en matière d'information, information de leur population, information des touristes? Il n'était pas question, j'imagine, pour les autorités brésiliennes en disant « Attention, on est le pays le plus contaminé par le Zika, surtout ne venez pas nous voir hein. ».
Ah non, non, il est hors de question pour le Brésil de mener à bien ce genre de communication, justement parce que le Brésil dépend justement de cet afflux touristique, justement pour pouvoir améliorer son économie, qui est très mal en point. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici même. Donc, il me semble que ces événements avaient été, pour le Brésil, justement, l'occasion de montrer le nouveau visage du Brésil. Et on voit bien que si, en plus des problèmes économiques, politiques et désormais des problèmes sanitaires, on voit bien que c'est la quadrature du cercle pour le gouvernement brésilien.
Oui. Frédéric Simotel est dans ce studio. Il est en pleine préparation du 01 Business Forum. Ce sera mardi prochain. L'événement digital en France de ce début d'année. Un mot, puis vous nous expliquerez dans un instant, d'ici 3-4 minutes, comment prévenir, comment détecter la prochaine épidémie grâce au digital. Vous me faisiez signe pour intervenir.
Non, mais je disais qu'il y a aujourd'hui, enfin c'est ce dont je vais parler dans un instant, c'est qu'aujourd'hui, alors la technologie, le numérique vient en aide évidemment aux médecins, dans la recherche, tout ce qu'on peut imaginer, mais il y a aussi quelque chose qui devient de plus en plus utile pour les propagations contre les propagations de l'épidémie, en tout cas pour les analyser, c'est le mobile. C'est toutes les données, on va géolocaliser tous les personnes qui ont pu être les personnes malades, les personnes en contact, et voilà, et on va écouter un peu tout ça. C'est ce que c'est ce qu'on appelle le big data aujourd'hui. On en parle beaucoup dans le monde industriel classique, donc récupérer toutes ces données puis essayer d'en faire quelque chose. Et bien ça va se faire aussi, ça commence à se faire très sérieusement dans le monde de la santé.
Je cite Bill Gates, évidemment à la tête de sa fondation qui lutte justement contre toutes sortes d'épidémies, qui il y a quelques jours insistait justement sur les nouvelles technologies. Les données sur les premiers secours seront numérisées d'ici 10 ans. Cela aura un impact positif énorme pour réaliser des modèles informatiques pour lutter contre la maladie. Frédéric Simotel, comment les réseaux sociaux, le big data, tout est agrégé et on saura exactement où détecter la prochaine épidémie?
Oui, la première chose, c'est qu'on va utiliser beaucoup la géolocalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mobile, et en Afrique, ils ont franchi le pas. Ils sont passés directement, ceux qui n'avaient pas de téléphone fixe, ils n'ont pas attendu d'avoir le fixe pour avoir un mobile, ils sont tout de suite passés au mobile. Donc il y a un côté, et d'ailleurs, il y a des opérateurs qui ont fourni à certaines personnes des mobiles gratuitement pour justement, quand ils vont dans les villages, donner des informations. Donc la première chose, c'est géolocaliser plus rapidement. Quand on est dans un village perdu, alors je parle de l'Afrique, mais ça peut être dans d'autres contrées. Donc, par la géolocalisation, on va déjà réussir à voir où un foyer est en train de se créer. Puis ensuite, on va commencer à recouper des informations. On va voir des réseaux sociaux qui vont dire, tiens, il y a des mots-clés qui vont apparaître. On va commencer, parce qu'aujourd'hui, les algorithmes en sont capables, on va commencer à cibler des régions où on voit ces mots-clés apparaître, où on va coordonner ça avec les données des médecins. Et puis, on va voir comme ça une cartographie un peu de la pandémie. Et ça va permettre, alors je ne sais pas si ça va complètement anticiper, mais en tout cas, ça va permettre de comprendre comment un an auparavant une maladie a réussi à se propager, parce qu'on a vu qu'il y avait eu un flux de population vers telle région parce qu'ils ont eu peur. Et bien la prochaine fois qu'il y a une autre alerte, et bien on va essayer de contrôler non pas le flux de la population, mais on va essayer de mieux contrôler l'état sanitaire des gens qui se propagent. Voilà, on va récupérer comme ça tout un tas de données, tracer les trajectoires de l'épidémie grâce au mobile, et puis c'est ça, et puis être à l'écoute des réseaux. Alors on parle toujours de surveillance de masse, surtout aujourd'hui dans le monde du terrorisme, mais dans la santé, il peut y avoir un effet très positif.
Frédéric Bizard, économiste, spécialiste de la santé, justement, c'est la nouvelle arme, le digital, le big data, pour lutter également, finalement, à l'instar des vaccins, quand il y en a, contre ces épidémies.
Oui, on sait que les algorithmes dont monsieur vient de parler vont permettre de mieux appréhender les risques, donc de mieux les évaluer et donc probablement avec des stratégies anticipatives plus efficaces. Je reviens sur le niveau d'information qui est... Je pense que ce qui me paraît le plus important, c'est la qualité de l'information et pas la quantité. Vous ne contrôlez plus aujourd'hui dans l'ère du numérique la quantité d'informations disponibles. Donc autant essayer de saturer le réseau avec une qualité d'information qui soit importante. Je pense que les gens sont responsables. Et là, c'est la juste information qui est importante. Dans ce cas-là, il y a en effet des recommandations pour les femmes enceintes pour limiter les voyages, mais rien d'autre. On sait que c'est asymptomatique dans 80% des cas. C'est relativement peu dangereux. Et donc, mais voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. On n'informe jamais trop. Par contre, on peut informer mal. Et si on informe trop peu, je crains qu'il y ait des réseaux, aujourd'hui, des réseaux d'information de gens beaucoup moins compétents qui saturent le web d'informations, elles, qui pourraient être assez anxiogènes.
Frédéric Simotel.
Oui, on a vu des expérimentations au Sénégal et en Côte d'Ivoire où ils se sont servis du SMS pour enrayer les rumeurs, justement, la propagation de rumeurs. Parce que, voilà, souvent, on le sait nous-mêmes, hein, on souche la main, essayez le virus, et par vous souvenez les débuts du sida, c'est un peu ça, c'est pour enlever les rumeurs. Vous savez, si vous lavez juste les mains, ou si vous faites juste ces deux, trois choses, ou si vous vérifiez juste ça sur la personne que vous croyez atteinte du virus, voilà, donc ça peut servir aussi à ça, les technologies.
Gilles Gompert s'écrit sur Somada.
Je reviendrai bien sur l'aspect transporien de la gestion de crise, et je dirais que dans le transporien, on a l'habitude des crises, parce qu'il y en a un peu tous les jours. Et c'est vrai qu'on voit ces technologies qui aident à la gestion de crise, aussi bien pour remonter de l'information, on remonte des photos, c'est extrêmement précieux, on descend de l'information à travers des multiples canaux, justement, pour toucher les gens très vite, c'est quelque chose qui marche très bien, et je dirais que demain, on aura même des drones, effectivement, pour faire du surveillance, passer des images en temps réel, qui accompagneront tous ces mouvements, et qui réduiront encore les circuits de décision avec des informations d'aide à la décision qui vont être encore une fois extraordinaires.
Christian Somade.
Oui, absolument. Il y avait quelques semaines le hackathon à Paris, voulu par la maire de Paris après les attentats. Et on voit bien que le numérique est absolument essentiel dans la gestion de crise et le sera de plus en plus. C'est à la fois un vecteur de collecte d'informations absolument incroyable de la part du citoyen. Donc ça fait le citoyen acteur. Et d'un autre côté, c'est extraordinaire également en réception de données et en typologie d'informations que l'on peut avoir. Et surtout, dans l'instantanéité et avec le traitement Big Data, évidemment, ça ouvre des ouvertures en termes de statistiques, de validation d'un événement en temps quasi réel, ce qui est tout à fait nouveau et extraordinaire. On n'en est pas loin. On en est à quelques mois ou années.
Frédéric.
Et puis, juste pour parler business un instant, il faut que l'industrie française, enfin les grands de la pharmacie, les grands qui travaillent avec des données, prennent ce sujet à bras-le-corps, parce que Google n'a pas attendu pour être très puissant dans ce domaine. Et là aussi, il y a un côté entre guillemets business, hein, mais il y a une industrie derrière tout ça. Et voilà, il faudrait que nos industriels aussi soient très très en alerte sur ce sujet de l'exploitation des données, parce que les Google, justement, ils sont bien. Bien prêt.
Sur le devant de la scène. Frédéric Bizarre, est-ce que ce type d'épidémie peut tuer dans l'œuf la reprise? Est-ce qu'il y a clairement un risque sur l'économie mondiale lié à toutes ces épidémies, hein, coronavirus, grippe aviaire, Zika, dengue, etc. Je reprends des chiffres qu'avait compilé Nicolas Bouzou, qui était d'ailleurs dans ce studio hier soir, le patron du cabinet Asterès, hein, des économistes de la Banque mondiale, qui avait quantifié les impacts d'une épidémie grippale sur le PIB. Une épidémie contenue, disait la Banque mondiale, comme celle de 68-69 à Hong Kong, hein, qui avait tué 1 million de personnes, 0,7% du PIB mondial. Une épidémie moyenne, comme la grippe asiatique de 57, qui ferait perdre 2% du PIB mondial. Une épidémie sévère, comme la grippe espagnole de 1918, il y a eu 50 millions de morts, hein, 5% du PIB mondial. Est-ce qu'on a fait des calculs sur toutes ces épidémies de ce début du 21e siècle?
Alors, il y a les cas cités sont des exceptions qui, je dirais, ne confirment pas la règle que l'impact économique de ces épidémies est faible. La réponse à votre question, c'est non. C'est qu'il n'y a pas de... En tout cas, dans l'état actuel des connaissances, et on a vu qu'il y a de fortes incertitudes, mais dans l'état actuel des connaissances, on ne peut pas prétendre qu'il y a un risque sur la reprise de l'économie mondiale par rapport aux épidémies actuelles, et notamment au Brésil. Il y a juste une anecdote sur le plan économique, c'est que ça met un peu de l'eau au moulin de l'économiste Gordon, vous savez, qui a développé la thèse de la stagnation séculaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une innovation, notamment en matière de transport, qui permet de transporter les gens et de permettre aux gens de voyager partout à bas coût, donc qui a permis cette mondialisation, mais qui a aussi entraîné la mondialisation de ces épidémies. Et en fait, c'est par cette innovation qu'on va un peu régler les questions qu'ont à apporter cette innovation. D'où est-ce qu'on est sur des gains de productivité importants avec toutes ces innovations? C'est une parenthèse, mais c'est tout de même intéressant parce qu'on voit qu'on arrive avec les innovations à tempérer les effets qui sont liés à d'autres innovations, mais finalement, est-ce qu'on crée beaucoup de valeur dans le système? C'est pas évident.
Oui, n'empêche que certains endroits sont plus propices que d'autres aux épidémies et certains endroits, justement, sont plus vulnérables économiquement. Regardons ce qui s'est passé avec Ebola, qui peut plus de 11 000 morts. L'épidémie, elle est officiellement finie maintenant depuis 10 jours. C'est l'OMS qui l'a dit, hein. 11 315 morts depuis fin 2013. Mais l'addition économique, hein, ouais, cette fois, pour ces pays, pour Guinée, pour Sierra Leone, pour Liberia, 2,2 milliards de dollars.
Alors oui, alors là, il fallait poser la question au professeur Delfrécy, mais on est probablement dans des cas très exceptionnels d'épidémie. C'est un virus ancien. Ebola, vous parlez de milliards, qui est d'ailleurs relative, qui est énorme pour ces pays-là, qui ont des niveaux de PIB par habitant inférieurs à 10 000 euros. Là, mais ce qui est relativement peu à l'échelle planétaire, mais c'est le coût humain qui est extrêmement élevé dans ces pays-là. Encore une fois, il faut revenir même au coût humain.
Oui, mais enfin, donc, le coût humain, bien sûr, mais avec une économie complètement déréglée, avec des activités minières qui ont été touchées. L'agriculture, parce qu'il n'y a pas eu de récolte pendant quelques mois, voire quelques années.
Ce qui est clair, c'est qu'en tout cas, il faut mieux évaluer l'impact économique de ces épidémies pour avoir une allocation de ressources par rapport à ces risques épidémiques qui soient plus affinés et donc qui soit plus, entre guillemets, rentable et plus efficace. Ce sont les règles de l'économie et je pense qu'il faut les appliquer aussi pour les épidémies.
Jean-Pierre Philibert, pour l'Outre-mer.
Oui, le mot crise, naturellement, qui est un mot très fort, suscite des inquiétudes. Et chacun le sait, l'inquiétude n'est pas un élément moteur de l'activité économique. C'est pas un élément dynamisant. D'autant que dans des territoires comme les nôtres, par exemple, tout l'aspect business qui a été évoqué tout à l'heure, vous avez raison, un peu moins sous les nouvelles technologies, parce que très curieusement, nous commençons à être très à la pointe. On a des entreprises parmi les plus performantes en France et même dans le monde qui sont des entreprises ultramarines. Mais globalement, ces grandes inventions qui naissent des crises, ces grandes inventions sanitaires, elles sont plutôt dans un premier temps réservées aux pays riches et puis ensuite on les adapte aux pays, j'allais dire, qui le sont un peu moins. Mais il y a, pardon, c'est anecdotique peut-être, mais la crise a aussi des effets parfois extraordinaire sur la façon dont les sociétés vont s'organiser ou les territoires vont s'organiser. Je vais dire un mot en Guyane. Est-ce que tout le monde se souvient? Non, personne. On l'a oublié que les premiers bagnes avaient été faits sur l'Oyapock, qui était beaucoup moins sain sanitairement. Donc on a eu un résultat. Tous les prisonniers ont été décimés, qui était déjà regrettable, mais les gardiens tout autant, ce qu'il était peut-être du point de vue de l'administration pénitentiaire encore plus. Donc on a transporté et toute une évolution. C'était facile, le Yapok, c'était la frontière avec le Brésil, on pensait qu'il y avait là une dynamique qui pouvait se faire, et en fait, on a transporté toute cette activité-là, d'abord naturellement pénitentiaire, puis ensuite économique, sur le Maroni. Crise et réorganisation complète d'un territoire.
Voilà, comme quoi tout va vite, tout se transporte rapidement. Grâce ou à cause des avions, peut-être. Allez, le mot de la fin, Gilles Lepers.
Ben, j'espère qu'on n'aura pas une économie de grève, parce que sur le plan effectivement humain, c'est sûrement nettement moins cher, mais sur le plan économique, je crains que ce soit aussi redoutable.
Allez, Gilles Gompers, directeur général d'Avico, qui est leader de l'affrètement aérien en France. Jean-Pierre Philibert, à la tête des entreprises de l'Outre-mer. Gaspard Estrada, analyste politique spécialiste du Brésil. Frédéric Simotel, bonne chance pour ce 01 Business Forum mardi prochain, hôtel Salon Monde Rothschild, événement que vous organisez. Merci. Évidemment, notamment dans Tech & Co. Christian Sommat, délégué général du Haut Comité français pour la défense civile. Et puis, Frédéric Bizard, auteur de Complémentaire Santé, le scandale. Pourquoi c'est un scandale, ces Complémentaires Santé?
Oh, parce que ça vous protège de moins en moins malgré des primes qui augmentent, parce qu'en fait c'est très inégalitaire, parce que ça protège ceux qui en ont le moins besoin, qui sont les cadres dans les grandes entreprises, et enfin parce que c'est un secteur de 35 milliards d'euros qui n'est absolument pas régulé sur le plan commercial et autres, ce qui fait qu'on est dans une grande opacité et finalement l'assuré est incapable de choisir un produit adapté à son risque.
Voilà, Frédéric Bizard, Complémentaire Santé, le scandale. Merci à tous, passionnant, hein, si vous avez loupé le début, pas de souci, session de rattrapage tout à l'heure à 23h dans l'émission donc des décodeurs de l'écho sur BFM Business, à la télé, à la radio, puis à tout moment sur le site internet. On se retrouve demain soir, mercredi, en direct à 19h. Bonne soirée, bonne nuit.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.